Bonjour à toutes et à tous, grande joie de vous retrouver cette semaine encore sur La Route Inconnue, le magazine bimensuel de Radio Rentiel, entièrement dédié à la poésie d'aujourd'hui, je n'ose dire contemporaine, de peur de faire fuir ou de faire snob, et puis poésie d'aujourd'hui, après tout, ça ne sonne pas si mal. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine un poète de grande valeur, un poète important qui a déjà une œuvre derrière lui, une œuvre et quelques milliers de kilomètres parcourus de par le vaste monde, car Jean-Christophe Bellevaux, non content d'être l'auteur que l'on sait, est aussi un véritable globe-trotteur, un type qui va voir de ses propres yeux ce qu'il en est de l'autre avec un grand A, ce qui fait de lui un homme libre. Après l'entretien que Jean-Christophe m'a accordé, vous pourrez entendre quelques poèmes de l'auteur, lus par notre ami Cédric Merlan. Puis, en seconde partie d'émission, un chapelet de chroniqueurs talentueux attend d'être égrené, Claude Verset, tout d'abord, puis Cécile Guivarch et enfin Patrick Jokel. Pour être tout à fait complet, je vous rappelle que La Route Inconnue s'honore d'être parrainée par la vénérable revue de poésie Décharge, pilotée depuis plus de 40 ans par le poète Jacques Morin. Grâce et honneur lui soit rendu. Jean-Christophe Bellevaux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes né à Nevers en 1958, si je ne m'abuse. Après le bac, vous avez fait des études de lettres à Dijon. Vous avez étudié ensuite la langue thaï au sein du prestigieux Institut national des langues et civilisations orientales de Paris. Puis vous avez entamé, illico presto, une vie d'écriture et de voyage, non sans vous mettre aussi au service de la poésie, en animant durant 7 ans la revue de poésie Comme ça et autrement. J'aime beaucoup ce titre, Comme ça et autrement. Ça veut peut-être dire que vous n'avez finalement aucune idée préconçue sur ce que devrait être la poésie. Ça peut être Comme ça et autrement, ou à moins que ça n'ait un tout autre sens.
Oui, bah tout à fait. C'est-à-dire que c'était cette revue, comme est à mon avis la poésie, un espace de liberté. Et puis c'est un petit peu pour aller contre les injonctions des parents, des fois qui disent aux enfants c'est comme ça et pas autrement. Là, c'était comme ça et autrement.
Oui. Remontons le temps qui n'existe guère peut-être. L'enfance, ses éblouissements et ses blessures ne nous quitteront jamais. C'est pourquoi je vous pose la question, Jean-Christophe. Quel enfant étiez-vous à l'aube des années 60, à Nevers, dans la Nièvre?
Alors, j'étais un enfant timide, réservé, studieux, ce qui n'a pas été toujours le cas par la suite. Voilà, une enfance dans une famille ouvrière, donc une enfance à cette époque-là avec effectivement des grosses difficultés économiques.
Ouais.
Et un goût pour la lecture et pour l'écriture qui arrivait très tôt. Mes premiers poèmes, je les ai écrits à 8-9 ans.
Ah quand même, ah oui d'accord, donc c'est arrivé à l'école, l'école primaire.
Ouais. C'est arrivé à l'école, et je dois rendre grâce à l'école primaire qui m'a mis en contact avec la poésie, évidemment très classique à l'époque, mais c'est quelque chose qui m'a absolument fasciné et j'ai voulu m'y essayer très tôt.
Oui. Quels ont été les premiers émois poétiques à l'école primaire? C'était, je me souviens qu'on avait Maurice Carême au menu, on avait aussi Francis Jammes, etc. Ouais, c'était dans...
Voilà, c'est ça. Maurice Carême, Albert Samin, Henri de Régnier, Lamartine.
Ouais. Alors les années passent. En 1973, vous avez 15 ans. Ouais. Les Américains n'ont pas encore tout à fait quitté le Vietnam, si mes souvenirs sont bons, ils sont en train de le faire. Les Stones sortent Angie, Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side et Claude François, Le Lundi au Soleil. Que faites-vous, personnellement, vous, de votre vie, entre les heures de lycée et la vie de famille? Est-ce que vous continuez de lire, d'écrire? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez des copains?
Pas très sportif, non, mais je lis effectivement beaucoup. Je commence à découvrir la poésie dite libre, enfin non rimée. Hein, je commence à lire, bon, évidemment, ce qui est accessible au niveau scolaire, des Aragon, des Éluard. Voilà, NJ, je me souviens très bien, ça faisait des slows formidables.
Il y avait quand même quelques booms.
Oui, voilà.
Ouais. Est-ce que vous avez eu, je sais pas, une conscience politique dans ces années-là où la jeunesse était quand même finalement assez politisée? Est-ce que ça faisait partie de votre vie aussi?
À 15 ans, non, il va falloir attendre. Disons, je me sentais de gauche sans savoir que c'était ce que c'était. Et j'étais révolté depuis l'enfance, de toute façon, par toutes les injustices, comme beaucoup d'enfants. Et disons que vers 17 ans, 17-18 ans, j'ai eu une conscience politique un peu plus précise, quoi.
Alors, à la sortie du lycée, direction la fac de lettres, c'était pour vous une évidence?
C'était une évidence parce que j'aimais la littérature, mais j'ai été très déçu par l'enseignement, qui les premières années, effectivement, est très normatif, quoi. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, pour devenir prof de français en collège, ça ne va pas m'apporter ce que je souhaite. Et bon, bah, j'ai abandonné ces études-là. Et comme il faut bien vivre, par contre, bien, je me suis décidé à embrasser la carrière d'instituteur.
Alors, quand même, après, là, vous avez mené, je le disais tout à l'heure, des études de taille à Paris, à Langzhou. C'est pas banal, là. Moi, ça me met la puce à l'oreille. Est-ce que je sais pas, le soleil de la vie se levait à l'est pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je ne connaissais que l'Inde et le Népal où j'étais allé à l'âge de 18 ans. J'avais fait mon pèlerinage de hippie. Et puis après, quand je suis rentré à l'école normale pour devenir instituteur, j'ai rencontré un ami qui, lui, après, est parti travailler dans des camps réfugiés cambodgiens en Thaïlande. Et je suis allé le voir en Thaïlande et j'ai complètement craqué pour cette Asie tropicale, magnifique et avec des gens extraordinaires. Et c'est là où j'ai décidé de travailler à mi-temps et l'autre partie de la semaine d'aller à Paris, effectivement, pour suivre des cours de thaï à l'INALCO. Hein.
On reparlera tout à l'heure de voyages dans l'Asie du Sud-Est parce qu'il continue de vous hanter. Je précise que sur Facebook, par exemple, vous continuez de poster beaucoup d'images de ces voyages, mais j'en reviens quand même à la poésie. Finalement, votre premier livre paraît en 1983 aux éditions Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire que vous aviez donc 27 ans. Vous avez quand même mis du temps avant de publier. Vous vouliez être sûr de ce que vous avanciez.
Pas forcément, disons que je n'avais pas connaissance, en fait, dans une petite ville comme Nevers, des maisons d'édition autres que Gallimard qui pouvaient publier de la poésie. Donc cette première aventure hein, avec un ami, puisqu'on écrit à deux,
Yves Humann, oui.
c'est quelque chose de... Je ne vais pas le renier, hein, puisque je l'ai fait, mais bon, voilà, c'est encore très adolescent. Il a fallu par la suite, effectivement, que je découvre aussi le monde foisonnant des revues de poésie et de ce qu'on appelle la petite édition, pour que ça m'ouvre des horizons beaucoup plus larges.
Néanmoins, vous aimez travailler en collaboration avec d'autres poètes. J'ai vu que vous avez publié également il y a quelques années un livre avec Edith Azam, par exemple. C'était en 2014. Vous aimez le compagnonnage?
Pas
Pas
spécialement. Pour moi,
spécialement.
l'écriture, c'est quand même quelque chose de solitaire. Bon, la rencontre avec Edith s'est faite lors d'une résidence d'écriture où j'étais à Rennes. Elle était à Rochefort-sur-Loire, en résidence d'écriture également. On s'est rencontrés. Et puis, on a commencé à échanger. Je lui ai envoyé un poème. Elle a travaillé dessus. Et puis, voilà, cet échange par mail a donné ce livre. C'était plus une demande de sa part, comme le deuxième que j'ai fait en collaboration. Avec Corinne Lévrier, c'est une demande de sa part. Bon, mais ce n'est pas, disons, ma tendance naturelle.
Alors donc, je voudrais qu'on revienne à la vie d'écriture et de voyage. Donc des voyages, on l'a dit, qui vous mènent assez souvent dans l'Asie du Sud-Est et parfois pour de longs séjours. Hein, je crois qu'il y a eu des séjours de 6 mois. Qu'est-ce que vous cherchiez là-bas et qu'avez-vous trouvé?
Ben, ce que je cherchais, c'était, disons, une sorte de sérénité qui est sans doute liée au bouddhisme. Donc quelque chose d'apaisé. Une vie au présent, quoi, sans le souci de ce qui peut arriver le lendemain, sans se projeter. Les moments où je suis parti longtemps, bon, je me suis mis en congé, évidemment, sans solde de mon métier. Et puis, j'avais envie de découvrir, quoi, de tailler la route, de découvrir toujours plus, d'aller toujours plus loin. C'est toujours quelque chose qui m'a mené, ça.
Ouais.
Et de voir les modes de vie. Et...
Ouais. C'est pourquoi à la fin du chapitre de Territoire, vous citez le grand poète chinois Wang Wei, sous le couchant reviennent les oiseaux, l'homme, lui, cheminera toujours plus loin.
Oui, absolument.
Ça me fait penser à ce proverbe zen, quand tu arriveras au sommet de la montagne, continue de grimper. À ceci près qu'on est là dans la verticalité, mais en tout cas, voilà, c'est une route sans fin. Vous continuez les voyages aujourd'hui?
Je continue, mais un peu moins, puisque j'ai plus de difficultés physiquement, j'ai des problèmes aux articulations, donc je voyage un peu en Europe, mais j'ai toujours envie d'aller loin, notamment l'Asie. L'Asie est mon continent de prédilection, oui.
Oui. Alors, vous m'avez dit que vous cherchiez la paix. Est-ce que vous l'avez trouvée là-bas? Est-ce que pendant que vous étiez là-bas, vous étiez un autre homme finalement?
Oui, mais pour un temps donné, parce que le voyage en solitaire, malgré tout, il manque une société et la langue.
Oui.
Et malgré tout, j'ai un rapport à la langue, forcément, que toute personne qui écrit, et la langue française, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, je pense pas que j'aurais pu m'installer, ou alors pas pour un temps trop long en Asie. J'ai besoin quand même de ce rapport à la langue, donc d'avoir des gens qui parlent le français et d'échanger dans cette langue.
Alors cette semaine, je me suis plongé dans la lecture de votre dernier livre, Territoire approximatif, paru chez Fayfok. Je n'ai pas encore terminé parce que je l'ai reçu assez tard. Néanmoins, je suis en mesure de vous dire tout le bien que j'en pense. Vous êtes devenu en quelques jours un de mes auteurs de chevet. 5 lignes ont suffi. Ce sont les 5 premières lignes du livre. Je suis rare et définitif, pouilleux, vérolé, biberonnant l'affreux Sauvignon. La vie serait si réjouissante qu'on en puisse dénigrer les roses trémières. Vaste entourloupe. C'est beau comme un homme qui serait revenu d'à peu près tout. Et pour nous compter finalement la vanité de toute chose. Et le plus grand plaisir,
Absolument.
c'est qu'on prend un grand plaisir à vous entendre nous le dire.
Eh bien, merci beaucoup. Oui, je suis persuadé de la vanité de toute chose. Donc justement, il faut composer avec.
Oui. Il y a, alors, dans ce livre, parce que là, les gens vous entendent et ils pourraient penser que vous êtes quelqu'un finalement, bon. C'est serein. Moi, je trouve qu'il y a quand même dans ce livre comme un rictus de douleur et qui est parfois, si j'ose dire, entrecoupé de ricanements rimbaldiens. Néanmoins, je vous lis la page 20. On voudrait faire autrement, distribuer des mots, des gestes qui soient des bonbons, ne pas si vite s'épuiser. On voudrait bien. Et puis on prend des vacances, on n'est pas Jésus-Christ, on s'essaye à l'humanité. Il y a quand même ce souci d'être un humain parmi les hommes.
Ah bah absolument,
Oui.
ce n'est pas un cynisme intégral, hein. Disons que c'est assez noir, effectivement, il faut trouver l'équilibre entre cette connaissance de la vanité de toute chose et puis le désir de douter, de sérénité. Et je pense qu'on est en balance en permanence entre ces deux plateaux.
Oui. Je parlais de Rimbaud parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans le premier chapitre, Territoire approximatif, quelque chose qui est comme qui relève d'une saison en enfer un peu. Ne serait-ce même que dans l'écriture qui est à la fois foisonnante, qui est fragmentée, qui est extrêmement musclée, qui parfois balbutiante aussi. Et alors ce que vous dites, voilà, ce que vous dites là, je vous cite encore page 11, ce qui se joue entre les grincements du langage, on le devine, mettre en boîte l'insaisissable, descendre le rideau métallique de la boutique au nez de la Camarde, diantre, retrouver peut-être l'éternité, et là
Oui.
évidemment c'est l'éternité rimbaldienne, qui se
Ah
fout pas
oui.
mal de Charleville, de Londres, de l'Abyssinie, de Marseille même. Toucher du doigt la vérité, à tout le moins son ombre. C'est extrêmement bien écrit, évidemment. Tout le cœur de votre travail est là.
Oui, absolument, parce que de toute façon, on sait très bien quel est le terme. Donc, c'est cette idée donc de la mort qui est omniprésente. Nous sommes le seul animal conscient de sa propre mort à venir. Et donc, l'idée aussi du sens. Y a-t-il un sens? Et ben oui, et avec le langage, avec ce langage qui en plus est impuissant à restituer exactement tout ce qu'on peut éprouver. On travaille avec ce matériau, quoi, on sinue à travers tous ces récifs.
Comment vous travaillez, tiens, justement? Là, j'ai vraiment le sentiment que enfin, c'est pas un sentiment, c'est très écrit, c'est-à-dire que c'est pas du crayonné sur un carnet. On sent vraiment que vous êtes assis sous la lampe et qu'il y a un travail de longue haleine qui se fait, non?
Pour ce livre, il y a eu un travail, effectivement, les choses ont été reprises, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez fulgurant, comme une transe qui d'un seul coup emporte, et à ce moment-là, ça avance. Néanmoins, je crois qu'il faut travailler, qu'il faut retravailler, quoi, pour donner quelque chose de plus parfaitement lisible.
Vous travaillez assis ou est-ce que parfois vous écrivez comme ça en marchant avec un carnet dans la poche et vous mettez des idées ou il y a des choses comme ça, des fulgurances qui vous traversent ou est-ce que vraiment sont des heures quoi de travail sur le...
J'ai fait avec le carnet dans la poche, je le fais beaucoup moins, c'est
Ouais.
effectivement plutôt assis et avec une longue maturation.
Ouais.
Ça peut me prendre des heures avant d'écrire deux mots, quoi.
Ouais.
Et ces deux mots-là vont possiblement en entraîner deux autres, voire 10, voire 20, on ne sait jamais.
Alors, donc la première partie du livre, je l'ai dit, hein, s'intitule Territoire approximatif. C'est aussi le titre du livre. La seconde partie, c'est territoire tout court, donc ces territoires que vous avez arpentés physiquement. Peut-être, je sais pas, aussi dans l'espoir qu'il vous sauve de l'approximation d'une sorte de flou qui s'attache à la vie quotidienne.
Oui, ben ce sont des territoires plus précis, effectivement, des territoires géographiques, donc avec toutes les impressions ressenties du haut sens, hein, que ce soit les couleurs, les odeurs, etc., ce qu'on éprouve, avec néanmoins toujours ce rapport aux mots.
Ouais.
La langue est très importante, toujours.
Oui. Les noms aussi, Phnom Penh, Komodo, Rome, Barcelone. Et puis là, il y a une trilogie, Varanasi, Kota Baru, Ambarita. On dirait un mantra. C'est une litanie de noms étranges. On a l'impression, nous, lecteurs, de respirer, on s'espace. Mais vous n'êtes pas dupes non plus. Page 75, vous dites, ni le café bu un jour à Tanger, ni la bière chinoise maintenant, ni les mots, ni le silence, ni rien n'apportera la rédemption sur un plateau d'argent. Marchez, marchez, marchez pour croire que l'épuisement y contribuera. Marchez jusqu'à l'épuisement.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'autre choix.
Oui.
Donc là, dans ces pages, c'était marcher dans des endroits, dans différents pays. Hein. Varanasi, c'est l'Inde. Kota Baru, c'est en Indonésie. Ambarita, c'est en Indonésie aussi. Oui, marcher jusqu'à l'épuisement et marcher dans son existence aussi, quoi. On n'a pas d'autre choix.
Ouais. Vous avez quand même écrit Rédemption avec un R majuscule.
Oui.
Hein. Ça veut dire que malgré tout, vous n'avez pas renoncé tout à fait à cette rédemption. Ce serait de quelle nature, tiens, pour vous, la rédemption?
Ah là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Ben, je suis plein, plein, plein de doutes, au moins agnostique. Donc la rédemption, ben, je ne sais pas, ça sera le moment final de l'extinction peut-être.
Oui. Mais je me dis qu'en voyageant comme vous le faites, on est quand même en quête d'un, je sais pas quoi, d'une, peut-être d'un paradis, d'un âge d'or. Je sais pas si ça se situe dans l'espace ou dans le temps. Est-ce que vous avez touché du doigt parfois des choses de cet ordre? On parle.
Parfois, on va dire, en Asie du Sud-Est, notamment, effectivement, quand on est dans de beaux paysages et puis dans des situations de partage d'humanité. Dans tous les pays que j'ai pu fréquenter, c'est ça qui m'a c'est le partage d'humanité, quoi, c'est-à-dire l'accueil de l'étranger, et c'est quelque chose qui fait du bien, quoi, de sentir qu'on a ça en commun et que nous sommes tous frères.
Est-ce que vous souffrez en ce moment de la situation internationale? Parce que, évidemment, il y a l'Ukraine, mais on sent bien qu'il y a une sorte d'antagonisme universel. On sent que, voilà, la Chine, notamment, les États-Unis sont en guerre économique, etc. On n'a pas l'impression que, comme ça, avec le nez sur la vitre, que la situation s'améliore et que les hommes deviennent frères comme ça.
On n'a pas la pression, je crois que c'est même le contraire, c'est de pire en pire. Depuis mes 18 ans où j'ai commencé à voyager, je vois de plus en plus de pays sombrer dans le chaos, devant des différends affreux, des guerres. C'est très décourageant, quoi.
L'écriture est un refuge pour ça, un lieu de combat aussi pour vous, hein. C'est un combat aussi avec la langue.
Ah oui, absolument, oui. À partir du moment où, de toute façon, je suis profondément convaincu que cette écriture n'arrive pas à restituer de manière idéale la réalité ni la réalité que l'on voit. Bon, il ne s'agit pas de faire un compte-rendu journalistique, de toute façon, ni ce qu'on peut éprouver. Les mots sont toujours en deçà de. Donc on est obligé de bagarrer. Et puis on crée une autre réalité avec cette écriture, justement, en triturant la langue, pour atteindre quoi?
Néanmoins, il y a une profonde satisfaction à réussir un texte là.
Oui, quand on sent qu'on a approché quelque chose, une vérité entre guillemets, c'est satisfaisant.
Jean-Christophe Bellevaux, je vous remercie pour cet entretien. On n'en a pas fini avec vous, parce qu'on va écouter un peu de musique et ensuite Cédric Merlan nous lira quelques extraits de vos livres. Vraiment, je renvoie les gens évidemment à votre bibliographie. Elle est très importante, hein. Il y a pas loin de 30 livres. Et donc, ce dernier, Faifioc, est pour moi formidable. Territoire approximatif. C'est un livre qu'on peut trouver. Alors, c'est un très beau livre aussi, hein, un livre qu'on a plaisir à avoir dans la main. Vous le trouverez, à mon avis, sans aucun problème chez votre libraire. En tout cas, vous pourrez l'y commander. Merci beaucoup, Jean-Christophe.
Merci.
Et la Tchodrome, bonne route.
Merci. Merci beaucoup. À
À
bientôt.
bientôt. Every Parish After Hours, nous rejoignons sans plus tarder Cédric Merlan pour une lecture, une première lecture, il y en aura deux, première lecture d'un livre de Jean-Christophe Bellevaux intitulé « Démolition ».
J'accepte la flamme jaune et bleue du briquet qui allume ma cigarette concrète. Ça brûle, je tourne en rond, n'ouvre pas les volets, ne veux plus d'horaire. Il fait un peu froid dans la maison. Il fait un peu trop maison dans le froid et les habitudes. Ma pensée est un crotal. Le monde est trop plein de mois, d'années, de millénaires. Trop plein d'amour courtoise et de guerre. Le monde est trop plein d'îles sur lesquelles se dressent, comme des forteresses, de hautes falaises, ou alors de longues grèves qui écoutent infiniment gémir les galets. Le monde est trop plein d'ailes de corbeaux, de plumes de macareux, de cris de toucan, trop plein de langues aux sonorités étranges. Ma cage thoracique n'a pas assez de perchoirs pour tous ces oiseaux. De pâles fantômes défilent ce matin derrière la vitre, les époques se bousculent, qu'aucune encyclopédie ne peut contenir. L'ambition littéraire est aussi vaine que la perfection mathématique. Le monde les déborde et me traverse, et me traversant déverse ses cataractes plus loin encore. Le monde est trop plein du tumulte des poètes, des misères minuscules ou atroces, de la joie insensée, trop plein de petites filles, de poissons morts au fond des lacs. Le monde est trop plein de moi, qui me suis cru son berceau. Le monde est trop plein de moi, qui suis trop plein de monde. Le monde est trop plein, ma poitrine en déborde. Il faut bien commencer par quelque chose, par le monde, pourquoi pas. Le monde est plein de douleurs que les peintres écartèlent, les poètes, les musiciens aussi. Mettez donc un bémol à mon sang, jaugez si vous pouvez. Tout déborde, à commencer par la langue, qui est elle-même au commencement, si cela est audible. Le monde est plein d'incidents, d'art pompier, de feux follets que rien n'apprivoise. Au quoi, bancal et idéal, tordu serait, mais plus pur que le rien, plus infini que la ligne droite. Des choses et encore des choses, une chaise, un concept, l'absence de bruit ou son contraire, la lumière. J'avais écrit « À quoi bon les phrases ?» Plus à une contradiction près. Elle a passé la matinée, la jeune fille, elle a passé. Je peux jeter sur son ombre ma pelletée de mots, totem pourrissant aux rives enchantées. Je peux brouiller les pistes, varier les combinaisons, me couvrir de cendres, hurler à la lune « je peux, je ne peux plus » continuer. Je lèche ma plaie, j'écris mon sentiment, je plie, je froisse. Tout est trop cru, les aveux sans torture, la parole politique, poétique, amoureuse, sociétale, philosophique, saignante, quelle sale bidoche de phrases, quelle moche combine. Je lèche ma plaie, j'écris avec ma langue. Et pas de pioche encore pour les briques du mur, mais ça viendra. Ça va casser, futur proche, ça s'éboulera, langue et sourire, boomerang. L'écriture en pâture, mais pas le vent de la vie sur les visages. Mais pas les peaux qui se touchent, le monde est trop plein de verres de vin, de conversations, trop plein de regards vivants, du parfum entêtant d'un lilas déjà presque mort, mauve. L'instant étincelle sous le marteau-piqueur proche d'une illusion. Seulement voilà, ça s'effrite dedans, ça craque, et l'écriture jette ses oiseaux noirs sur la page étale, vont finir par croasser idiotement les mots, incongrus, avec leurs petits battements d'ailes, obscènes, ne suffiront pas à abattre les murs. Puisque j'ouvre un livre, et là où est écrit « Lucidité », je lis « Cécité », je ne peux plus compter sur le mauvais ficelage de ce radeau. C'est une hache qui doit entrancher le bois, mes membres, ma tête. C'est une autre façon qui doit jaillir, c'est sans façon ni brutalité. Mais alors quoi ? La masse en main contre la masse des mots des affects. La masse en tête, virtuelle, qui prend toute la place. La masse pour cogner, fabriquer des gravats. Non, pas tabula rasa. Des gravats et leurs aspérités à lire encore. De la poussière blanche, du plâtre de la pensée, petite neige asphyxiante qui voltige et aveugle. À quoi bon les phrases ? À quoi bon des phares pour clignoter sottement? Cependant que je l'écris, cependant que je bois un café réellement noir dans un gobelet de grès, que des images me viennent en direct de la perspective Nevski de Nicolas Gogol, qu'il me semble se dérouler un simulacre de vie, partout, sans moi, surtout sans moi.
C'était quelques poèmes extraits de Démolition de Jean-Christophe Bellevaux, publié au Carnet du dessert de lune. Nous retrouvons Cédric Merlant pour une lecture de Territoire approximatif dont nous avons longuement parlé dans l'interview que Jean-Christophe Bellevaux m'a accordée.
On habite l'étroit de la tête, les nerfs. On marche abandonné de la ponctuation abandonnée. Dans l'illusion de la continuité, on prend le train comme une suite à donner, sait-on. Dans les mailles de lettres, dans les mailles des mots, les murs d'hôtel. Dans. On écrit nom et destination à la descente d'avion. Finalement, on existe mieux, une fois sous la douche, corps reconnu comme sien, là lui aussi. On sue, l'effroi, les phrases n'y sont pour rien. Croit-on seulement que cette chaleur qui saoule, on aura des cernes au soir à donner au miroir, la poussière déposée sur tout. Langue tue, meurtre et mutisme, la sécheresse du paysage a précédé, à quoi bon se leurrer aucun jasmin. On s'abreuve encore aux mots sud, ergue, nomade. On croque des piments, on boit du thé, on fait semblant, on ressemble. Pour finir, on regarde la chaleur de la rue, les hauts vents sales des épiceries, tout cela, autre. Le sable ne s'arrête pas aux portes, pénètre la ville. On se tient sur le seuil d'un restaurant dehors, paraît jauni. On a soif. Tanger. Les ruelles d'abord, en pente plutôt dans le souvenir. La mer à proximité, connue, l'aujourd'hui à tout instant dans la douceur de l'instant. Dans la douceur et dans l'instant du café pris en terrasse sur l'avenue, la vie est chaude dans le verre, mazagran, au fond duquel on laisse reposer le marc. La vie se dénoue, cinéma merveilleux dans la trame claire de l'aujourd'hui, au passage plein de bruit des lents camions. Les attouchements des mots dessinent des fêlures discrètes dans le bois brut du réel. La maladresse prend consistance. D'abord, c'est l'enchevêtrement du soleil, du pain rond et des olives, la parfaite insouciance. Saint-Louis du Sénégal. Le cimetière des marins dit en silence la matière apaisée. La langue de barbarie appelle à marcher, façon d'attente, prière qui cherche son adresse. Marcher, dormir, deux expressions de l'attente, dans le sable de la lande ou dans le sable de la tombe. Le témoin ne saurait revendiquer plus que le bruit éphémère du témoignage. La mesure ne peut être du premier jour qui laisse loin derrière toute trace et tout témoignage. Le premier jour dure depuis le commencement. Il est le souffle divin dans la péripétie duquel tout témoignage se lève et s'efface. Toute trace fait sens provisoire, puis s'éteint. Rome. Enfermé dans l'obligation d'être, on s'ébroue le soir venu. Dans la conversation de soi, avec soi, on secoue les apparences aux abords de la gare, quartier des pensions bon marché, pour se donner l'illusion d'une sincérité qui tient debout. Débarrassé de ses oripeaux, l'ossature est bien maigre au milieu des véhémences, dans la décomposition lente de l'être. On mastique un carré de Piazza Bianca, et le vide. Paris. Au seuil infranchissable de toute certitude, liberté anonyme et lassitude dans le même pactage. On serait inerte dans la parole, comme frappé de renoncement, acteur parmi tous d'une immobilité. Ainsi pourrait-on songer aux origines, à une matrice qui toujours nous renverra au néant. Ainsi la vanité de toute chose s'affirmera-t-elle plus sensément encore. commodo. Je n'avais pas de havresac jeté sur l'épaule. Le bateau était pourtant là, qui nous attendait, dans le port de Labu Anjabo. Un petit bateau de pêche en bois, tout simple, bleu et blanc, une ancre rouillée à la proue. Émile et moi partions pour 2 jours naviguer en mer de Florès. Ainsi, ce moment de l'embarquement, qu'on dirait volontiers passé, dans le réel, existe maintenant et différemment dans cette collection de mots. Et bien sûr que la balle au clapote doucement, comme ici clapote la phrase ensommeillée. Je replie les paradigmes sur les portulans, des bicoques branlantes penchent sur leurs pilotis, grises comme mon âme, trouées. Les dragons sont des contrebandiers gris, eux aussi, monstres de cendres sur une terre de cendres. Et nous, à cagnarder dans les soutes de l'existence, à épier, Komodo n'est qu'un prétexte. Dans le sumato matinal émerge sur la côte la silhouette d'une mosquée avec sa coupole métallique. Émile a l'air indifférent, des gamins à qui on ne la fait pas. Moi, je prends des photos que je montrerai à sa mère à notre retour. Des barcasses défilent à durée dans la vase du rivage et ce monde se laisse dire, dans les méandres duquel nous sommes perdus, lentement. Puis nous concluons des pactes furtifs avec les sentiers, les lianes, le point d'eau où s'abreuvent les buffles. C'est-à-dire, je file à petits gestes résignés le lin de la tristesse. La nuit, nous dormons sur le pont du bateau. Le gouffre austral du zodiaque au-dessus de nos têtes, de ce sommeil autre et pareil, une brise marine peigne nos cheveux. Cependant, nos fenêtres françaises, si loin, sont peut-être ouvertes sur des après-midi d'orage, un cri retenu, la même phrase imprononçable qui dessine une frontière imperceptible entre nous et le néant.
Territoire approximatif de Jean-Christophe Bellevaux par Cédric Merlan. Je vous engage vivement à vous procurer les 2 livres dont il a été question, Démolition au carnet du dessert de lune et Territoire approximatif aux éditions Fayfok. Jean-Christophe Bellevaux est une voix importante de notre temps. Je vous propose à présent de rejoindre une autre voix très importante, celle de Claude Verset, qui nous revient plein d'excellents conseils de lecture, probablement.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Sport et poésie. Les deux activités sont-elles compatibles? Parfois. Mais il me plaît de repérer cette association improbable. Et j'ai été particulièrement gâté ces derniers temps. D'une part, en montant sur le ring du poète, c'est le titre, le ring du poète, avec Ramiro Oviedo aux éditions de La Chouette Imprévue, et j'en ai rendu compte récemment sur le site de la revue des charges. D'autre part, en prenant la foulée de la poète Florence Saint-Roch, qui, elle, court avec Lucie. Courir avec Lucie, dont je publiais des extraits sur le site et dans la revue des charges dès début 2019, vient de paraître dans une nouvelle collection, Déplacement chez Invenit. Alors retrouvons-la, accomplissant 2 fois par semaine, je crois, le même circuit, une même boucle de 15 km au bord de l'AA, rivière bien connue des cruciverbistes, je me dis en passant, au coude à coude avec Lucie. Lucie, oui, la jeunette de 3 millions d'années, mise au jour au cœur de l'Afrique, en Éthiopie, par des paléologues dont Yves Coppens, et qui non seulement était dressée sur ses 2 pieds, mais courait, ancêtre de ces championnes éthiopiennes d'aujourd'hui, et aussi de toutes ces femmes qui ont retrouvé le goût, et parfois le besoin, de la course. Je cite. Nonobstant les idées reçues, courir est le plus vieux métier du monde. En effet, telle est souvent l'urgence absolue pour les femmes, échapper à leurs prédateurs, semer leurs poursuivants. Mais lâchez-nous les baskets, bon sang! On goûtera au passage la qualité de la prose, à l'égal de la foulée de la sportive, légère, gracieuse, bondissante, pour reprendre des qualificatifs qui s'attachent aux marathoniennes éthiopiennes. Bonne coureuse, Florence. Bonne rêveuse, tout autant. La course est méditation. L'occasion d'un travail sur soi-même. Lucie, c'est sûr, donne à mes foulées une valeur ajoutée, écrit-elle avant d'ajouter, courir m'améliore. Dès lors, peu importe ce que représente Lucie, fantasme d'une solitaire, sœur imaginaire, l'important, plus je cours, plus j'apprends quelle femme je suis. En plus, Florence Saint-Roch nous livre ses secrets, revient grâce à sa comparse familière sur des souvenirs enfouis. Ici, sur un accouchement difficile. Lucie et moi, on a toutes les deux eu l'ichtyon fracassé. Le mien, suite à un accouchement boulet de canon. Et là, le souvenir de cet été où elle a failli se noyer, à l'image de son ancêtre imaginaire dont on peut penser qu'elle fut emportée par une crue soudaine. Qui suis-je semble être, au bout du compte, la question, et la poète s'invente une ascendance imaginaire à laquelle, attentif lecteur que nous ne pouvons qu'être sensibles. N'aspirera-t-elle pas, dans un livre à venir, être indienne, garder une part d'inconnu, écrit-elle en conclusion d'une de ses dernières courses avec Lucie. Se dire que l'improbable reste une possibilité. Et pour terminer cette chronique, un extrait de cette descente de la rivière en canoë. Avec le canoë, vous voyagez. Depuis Volvent, on descend d'abord en voiture, puis les pieds dans l'eau ou en bateau jusqu'à Saint-Nazaire-le-Désert. Parcours dangereux, ponctué de rochers ou de goulots d'étranglement. Mais c'est joyeux. Vous arrivez dans le désert en religieux. Loin de la foule, vous méditez, si ça vous dit. Et dans le jardin clair, trois verres de clairette. C'est Poésie sportive, la descente de la rivière en canoë de Claude Minière, comme courir avec Lucie de Florence Saint-Roch, inaugure la collection Déplacement aux éditions Invenit, 15 place du Maréchal Leclerc à Lille. Allez, je vous souhaite de rester en forme, toutes et tous, pour que nous nous retrouvions dans un mois à courir, à courir, sur la route inconnue.
Vous pardonnerez la piètre qualité de la liaison téléphonique. Nous essaierons de faire mieux la prochaine fois. Toutes mes excuses à Claude Versy. Nous avons rendez-vous à présent avec Cécile Guivarch. Je vais croiser les doigts en espérant que la ligne soit meilleure. Cécile Guivarch nous revient avec... Elle aussi a un nouveau coup de cœur. Vous voyez que la production poétique francophone contemporaine est extrêmement riche, diversifiée, très, très qualitative aussi. Alors, faut acheter le bouquin. N'hésitez pas à commander-les à vos libraires. Allez, tout de suite, Cécile Guivarch.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Cette fois, je vais vous parler d'un livre de Sébastien Ménard qui est paru à la collection L'Esquif aux éditions Publi.net. Le titre du livre, c'est « Quelque chose que je rends à la terre ». Alors, Sébastien Ménard, lui, débute le livre avec toute une liste d'auteurs, une liste qu'il intitule « Ici, j'écris avec ». Parce qu'effectivement, elle écrit avec des auteurs qui sont essentiellement contemporains, qui sont des compagnons, qui sont des poètes fondateurs. Et à la fin du livre, il nous livre une autre liste qui est nommée « Ici, j'écris avec », mais là, ce ne sont pas avec des auteurs, ce sont avec des animaux, des végétaux, avec l'air, les poussières, l'eau, sous toutes ses formes, hein, l'eau. Et avec des lieux, avec des outils, avec des silences, avec des inquiétudes, avec le vide, la beauté, voilà, avec beaucoup de choses. Donc, il écrit entouré de livres, de regards, de lectures, d'amis, mais il écrit aussi avec la nature, avec des doutes, des certitudes, des douleurs et des joies. Et en consultant ces deux pages de quelque chose que je rends à la terre, on sait déjà que cette lecture sera vraiment accompagnée Et d'emblée, on entre en confiance dans ce livre, au poème titré et rassemblé en plusieurs parties. Alors, par exemple, en guise de partie, on a « Cher corps, quelque chose que je rends à la terre », qui est le titre du livre. Il faut savoir être dans l'instant ami, dit au pluriel, ou dans ce grand silence, où chercher ma fontaine sauvage. Donc, tenir entre les mains un recueil, mais un recueil ordonné, structuré, et qui, dès le départ, on voit qu'il y a une trajectoire. Alors, l'écriture, elle est d'un abord plutôt simple. On est à la recherche d'une poésie qui serait d'une absolue pureté, hein, c'est les mots d'auteur qui disent ça. Une poésie qui dit des petites choses ou celles que l'on croit petites ou qui sont dénuées de poésie. Une poésie qui appelle les choses, qui leur donne une âme en les nommant. Une poésie d'artifice qui puise au cœur de l'émotion même. Une influence certaine aussi des auteurs américains, notamment Ginsberg, dont un des titres est repris. Alors c'est une poésie directe, elle dit ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Elle n'image pas, elle est à l'écoute du monde, des gens, des énergies, des gens et de leurs souffrances, des gens et de leur solitude. Elle dit la vie, elle dit l'amour, elle aspire à la vie bonne. Voilà, tout ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Et surtout, Sébastien Ménard apporte une réflexion, notamment où trouver la poésie. Par exemple, en référence à Siméon, qui avait dit, la poésie, c'est comme ça. Qu'elle sauve le monde ou non. Non, la poésie ne sauve rien. La poésie crie. Elle ne fait que crier. Et encore, elle crie dans son silence. C'est du silence crié, la poésie du silence crié. Donc, poésie qui dit le je, qui doit le nous et qui prend le poème. Donc, l'écriture de Sébastien Ménard, elle suit les mouvements, celui des arbres, de la pluie, de la vie. Elle revient parfois à l'état animal, à nos origines. Nous, dans le grand tout, comme la pluie, la terre, le cosmos, à la recherche d'une langue nue. Réfléchir est remplacé par méditer et tout dit quelque chose. Donc le dit du chemin, le dit des pluies, le dit du bois de Kobila, dans le bois de Kobilka, le dit du fleuve, etc. Tout simplement, on se laisse porter par cette écriture fleuve, on se laisse porter par les différentes parties. Chacune montrant la faculté de l'auteur d'utiliser différentes formes d'écriture, de changer aussi de trajectoire du quotidien au spirituel. C'est une pensée profonde qui se déploie notamment dans la dernière partie, montrant que qui nous sommes, c'est un livre vivifiant et je dirais même un livre de santé. Alors je vais terminer avec un petit extrait. Je suis debout, je porte les mots. Et du fumier de ferme. C'est la même intention. Quelque chose, je ne sais pas vraiment quoi, que je redonne à la vie, à l'humus, à la terre et à la suite. Je marche dans l'herbe humide et j'écoute les bêtes. Et si je ne connais pas leur nom, je l'apprendrai. Je leur donne ma confiance en elles, comme à la fumure et aux mots, à ceux qui tentent. Je leur donne ma confiance et écoute. Quoi faire d'autre? Je marche dans le grand potager. Je suis les lignes de culture. J'essaie de dire au plus près cette chose d'amour total et de tendresse jamais finie. Voilà, c'était quelque chose que je rends à la terre de Sébastien Ménard et on trouve cela à la collection L'Esquif aux éditions Publipanet. Voilà, je vous remercie et vous dis à très bientôt.
Voilà, vous retrouverez Cécile Guivarch dans 4 semaines pour la toute dernière émission de la saison. Je laisse le soin à Patrick Jokel de conclure cette émission en lui demandant d'éteindre la lumière en partant. Je vous souhaite quant à moi une excellente fin de journée à notre écoute, bien évidemment, puis on se retrouve d'ici 15 jours sur la route inconnue.
Aux éditions du Taillis-Près, en 2021, est paru Ordonnance du réel de Jean-Marie Corbusier. De petits pavés de prose constituent ce livre. Cette tentative d'ordonner le réel, d'habiter le monde, le temps d'une vie, une vie partagée avec d'autres, avec une autre, le nous qui jalonne ces textes en témoigne. Ces textes à lire comme une carte au trésor invitent le lecteur à ouvrir sa porte et à parcourir l'extérieur sans crainte. La carte guide les tâtonnements, les questionnements. Par exemple, où sommes-nous dans ce mince aujourd'hui? Demain n'est pas un jour à quoi se confier. même ébloui, même dans l'attente, le doute est plus fort que notre désir. Nous marchons dans l'impatience d'un jour qui ne pourra tarder à devenir le même. Les plaies gardées ouvertes et comme intactes n'apportent rien que nous ne savons déjà. Laissons grandir le liseron au gré du vent, séparé depuis toujours et à jamais dans l'indifférence du temps. Que nous disent ce brin d'herbe et cette fleur levée avant les autres ? Un rappel de quoi au fond de la graine qui a germé par hasard ou par nécessité ? Nous sommes avertis. Nous ne sommes pas les seuls à désirer vivre plus loin que nous. Non, nous ne sommes pas les seuls à désirer vivre plus loin que nous. Cette évidence qu'on oublie parfois quand on sent les chevilles gonflées d'importance et de ce « moi, moi, moi » nous revient en pleine face dès qu'on se remet face au vent, dès qu'on renoue avec le désir d'horizon, dès qu'on revient à soi et que la solitude vient nous accompagner. On est moins seul avec elle, n'est-ce pas ? Un autre extrait. Il n'y a personne. On parle seul, on craque comme ces vieux arbres sous la poussée du vent. Il reste une dernière rose qui attend sur sa tige. Tout se tait, visage au fond d'un miroir que l'on ne reconnaît plus. Appeler nous éloigne davantage. Ce qui déborde encore est cette rumeur qui n'est plus pour nous. On sourit, on regarde, c'est toute la jouissance. On se retire comme un soleil sur les eaux au fond de l'allée, au fond de soi. On va, on vient. C'est un livre donc de Jean-Marie Corbusier, Ordonnance du réel, au Taillis-près. Aux éditions Chêne, dans la collection Poèmes pour grandir, en 2021, Là-haut du placard, un livre écrit par Loïc Demet et illustré par Clotilde Staes. C'est d'abord un livre aux couleurs chaudes, un garçon assis devant une masse noire comme en méditation. En quatrième de couverture, l'enfant a disparu, mais une échelle a ouvert une porte dans la masse noire. Mystère, ça intrigue. On ouvre le livre et on se retrouve. Nous sommes de retour sur CTZ44, la chaîne préférée de celles et ceux qui passent leur temps devant la télévision. On me communique à l'oreillette une information de très haute importance. Sachez, chers téléspectateurs, que vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder. On tourne la page. Retour au réel. Au discours de la maîtresse, aux nombres et aux élèves qui se moquent de là-haut. Je n'arrive pas à montrer mon sourire aux autres, ni à donner de la voix à mes idées, dit là-haut. Elle, la maîtresse, a dit « Là-haut est un enfant du placard ». Alors on revient en arrière et on comprend pourquoi là-haut mesurait son placard en début de son émission. Ensuite, eh bien, c'est la vie de là-haut et sa sortie du placard. C'est à découvrir au fil des pages de ce livre. Ce livre aux couleurs joyeuses accueille si librement la différence. Il ouvre l'esprit du lecteur au questionnement et à l'accueil de l'autre. Ce livre évite les écueils qui guettent bien souvent ces thématiques pour au contraire donner de la bonne humeur à tous. C'est un livre qui doit se retrouver au plus vite dans les BCD des écoles à partir de 8-9 ans, et bien sûr dans les CDI de collège et de lycée, ou bien dans nos médiathèques secteur jeunesse. Cette collection, les poèmes pour grandir, est bien là pour permettre aux enfants et à tous les lecteurs de grandir. Je rappelle le titre, « Là-haut du placard », Loïc Demet, aux éditions Chêne. Et voilà, cette chronique est terminée. Je vais quitter les studios de Radio Grand Ciel pour retourner à Moinsartou, mais pas tout de suite. Au revoir, à bientôt.
suffer right.